appelle de Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Le réseau citoyen pour la Congo a lancé le 19 mai dernier le projet de consultation populaire Congo-Tolingi dans un contexte d'année électorale. Ces consultations ont pour objectif de recenser les attentes des citoyennes et citoyens congolais pour leur futur. Ainsi, cataloguées, priorisées et centralisées, elles sauront être prises en compte par les gouvernants de demain. Ces travaux permettront de bâtir ensemble un contrat social entre les gouvernants et les citoyens. Les consultations ont vocation à se concentrer sur des thèmes cruciaux, mais peut aborder aujourd'hui en plus des thèmes essentiels et chers à toutes Congolaises et tout Congolais. Nous parlons notamment des sujets de leadership politique, de pouvoir d'achat, de sécurité, de santé, d'éducation et de corruption. Comment commentez-vous cette initiative? Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais également vous pouvez déposer votre commentaire par WhatsApp au +243 81 890 49 69. Fidèles auditeurs, bienvenue à toutes et à tous.
Radio Okapi à Bounia, à l'occasion de la journée de l'enfant africain.
Avec Okapi Service, métissage et Bana Okapi.
Rendez-vous avec Okapi Service le mercredi 14 juin à l'université de Bounia. Et le jeudi 15 juin à l'université Shalom de 10h à 12h. Heure locale avec jeudi Daniel Kinshama.
Au menu, la situation des enfants victimes des conflits en Ituri et la pacification de la région.
Étudiants, fonctionnaires, hommes politiques, associations des jeunes et des femmes, artistes et autres. Vous êtes tous les bienvenus à ces deux jours d'enregistrement d'Okapi Service et Métissage.
Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et Mimi Kindou assure la mise en onde. Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Monsieur Floribert Anzouleni. Bonjour.
Bonjour, cher Pierrot.
Vous êtes membre du réseau Pona Congo, mais rappelons quand même que Filimbi. Qu'est-ce que Filimbi est devenu aujourd'hui?
Filimbi est toujours un mouvement citoyen. J'ai effectivement participé, je suis l'un des cofondateurs de Filimbi, que j'ai coordonné jusqu'en décembre de l'année dernière, et finalement en décembre de l'année dernière nous avons fait notre passation pacifique et démocratique des responsabilités au sein de la coordination. Donc il y a un nouveau coordinateur, Mino Bupomi et tous les autres. Donc Filimbi continue son action citoyenne.
Il faut quand même dire que l'alternance que la RDC connaît aujourd'hui est aussi le fruit de ces initiatives de mouvements citoyens. Est-ce que vous en êtes fier aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Nous en sommes très fiers parce que depuis l'émergence des mouvements citoyens en 2015, il y a eu un nouveau souffle, on va dire, dans l'engagement citoyen au Congo, au sein des citoyens, et ça nous a permis donc de relancer l'engagement citoyen. Nous sommes fiers, mais je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. La sensibilisation, la conscientisation doit se poursuivre pour que tous les Congolais comprennent l'importance de participer à tout le processus de prise de décision, d'élaboration des politiques publiques et d'influencer les décideurs publics. C'est d'ailleurs encore une fois l'un des objectifs de notre expérience aujourd'hui.
Et j'allais d'ailleurs quand vous lancez les réseaux Pona Congo lance la campagne Congo Tolingi, il faut aller vers la population. Pensez-vous qu'il y a aujourd'hui une adéquation entre le programme gouvernemental et les véritables aspirations de la population?
Alors, le réseau Pona Congo, d'abord, c'est un réseau de citoyens congolais qui aiment le Congo, qui ont le cœur qui bat pour le Congo et qui regroupe des citoyens qui viennent de divers horizons, des mouvements citoyens, de la société civile. C'est tout un réseau national qui est représenté aujourd'hui à travers tout le pays. Donc oui, à l'aube des élections aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte malheureusement que les débats publics et politiques, qui sont portés principalement d'ailleurs par les acteurs politiques de tous bords, semblent ne pas forcément se focaliser sur les véritables problèmes et les priorités des citoyens. Raison pour laquelle nous avons dit aujourd'hui, nous allons nous auto-consulter, puisque personne ne nous consulte en tant que citoyen, nous allons nous auto-consulter pour, un, définir les attentes des populations, les priorités des populations, et ensuite définir un cahier des charges qu'on appelle contrat social, que nous allons, entre guillemets, imposer à tout futur dirigeant, à tout futur candidat aux prochaines élections.
Alors, les mots, les verbes imposés, tout de suite, je me dis, bien, on sait, les politiques, ils sont dans leur coin, ils ont leur projet de société, leur discours des campagnes. Comment, quel va être le pont pour l'intégration de ces aspirations de la population dans leur programme de campagne, par exemple? Vous allez les consulter un à un, vous allez publier ça. Comment ça va se faire pour qu'on crée ces ponts entre ce qui va être récolté par le réseau et ce que le parti politique et les candidats concoctent dans leur bureau, dans leur état-major?
Très bon point, Pierrot. Alors, nous allons, la première des choses, c'est pour ça que nous sommes sur une véritable campagne de communication d'abord à ce stade-ci, parce que nous voulons que la grande majorité des Congolais s'approprient ce processus, que ce processus soit approprié par les citoyens congolais. Plus il y aura de citoyens qui prendront part à ce processus, plus notre capacité d'influence sera forte auprès des acteurs politiques qui doivent ensuite venir chercher le vote. Deuxièmement, nous allons donc faire ces consultations de manière physique et virtuelle dans les 35 villes physiquement et virtuellement ailleurs. Et nous allons organiser des rencontres d'abord avec les différents groupes sociaux, que ce soit les mamans maraîchères, les transporteurs, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, les étudiants, toutes les catégories de la société. Nous allons les consulter, mais également à travers une consultation virtuelle qui permettra à tous les Congolais, où qu'ils soient, de participer à ces consultations. Une fois que c'est terminé, nous allons produire ce cahier des charges, ce contrat social, et nous allons ensuite lancer une deuxième phase qui sera celle de faire appel, finalement, même pas faire appel, mettre à disposition de l'opinion publique et des acteurs politiques qui ont de l'ambition pour les prochaines élections, pour que ce dernier se saisisse de ça. Le plus important va être le niveau d'engagement des citoyens et d'appropriation. Plus de citoyens vont s'approprier ce contrat social, plus ces derniers vont exiger à tous les candidats potentiels lors de la campagne électorale ou lors de la pré-campagne qui viendront les voir, ils vont leur exiger d'abord d'adhérer à ce contrat social. Donc c'est cette stratégie que nous allons appliquer. Approprions-nous ce processus et ensuite, naturellement, les futurs candidats potentiels n'auront pas d'autre choix que d'y adhérer.
Alors, on sait que le même citoyen qui sont dans des différentes corporations, ce sont des fois les mêmes qui se retrouvent au sein de partis politiques. Est-ce que la campagne, elle a tendance à se focaliser sur, quand on parle de la population, voire la société civile, où cette campagne va s'étendre sur ces citoyens, mais qui sont membres des partis politiques, mais qui ont quand même le droit de pouvoir s'exprimer?
Ah, tout citoyen aura la latitude de s'exprimer. Comme je l'ai dit, les consultations physiques seront ciblées parce qu'elles vont cibler les catégories bien spécifiques de Congolais qui représentent, qui vont représenter suffisamment les différentes couches de la société congolaise. Mais ensuite, il y a une consultation virtuelle, j'insiste, qui va être ouverte à tout le monde, y compris les acteurs politiques actuels qui sont en fait des citoyens. Pour nous, nous voulons vraiment consulter tous les citoyens pour que ces citoyens nous fassent part de leurs attentes, des défis auxquels ils font face. Et puis, ensemble, en fait, nous devons arriver à définir les priorités. Et donc, nous serons capables, par exemple, de dire que dans notre consultation à Boende, voilà plus ou moins les priorités qui ont été définies. À Mbandaka, voilà plus ou moins les priorités. À Lubumbashi, à Fizi, ça, nous le ferons physiquement dans les 35 villes, très clairement. Et puis, virtuellement, à travers toute la République, nous avons des représentants, des points focaux à travers toutes ces villes-là, mais également dans tous les 145 territoires. Donc nous voulons vraiment en faire une campagne nationale et que les citoyens s'approprient ce processus.
Avant qu'on écoute les auditeurs tout de suite, je pense au timing. On est au mois de juin, on sait que on tient à voir les élections au mois de décembre suffisamment. Estimez-vous, on a vraiment le temps de pouvoir faire ce travail et de sortir ces documents avant que le potentiel candidat s'élance dans la conquête du pouvoir?
C'est une très bonne question. En réalité, c'est un travail qui doit être permanent. Les acteurs politiques devraient nous consulter de manière permanente. Parce que je présume que lorsqu'on veut, entre guillemets, diriger il est important de connaître les problèmes, les défis, les priorités, les attentes des populations. Donc pour nous, c'est un processus qui commence. Nous ne sommes pas en train de dire aujourd'hui que les consultations doivent commencer, s'arrêter, et puis pour reprendre dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans. Alors, plus concrètement, la première phase pour nous va être tout ce mois de juin. Nous allons faire une première phase de consultation pendant tout le mois de juin. À l'issue de cette période, nous allons produire un premier contrat social qui va reprendre les premiers éléments des premières consultations. Ensuite, les consultations, pour nous, nous devons en faire un mode de fonctionnement permanent. Donc, nous allons mettre des mécanismes pour que les gens continuent de manière permanente à être consultés et à des délais, à des échéances bien précises. Ce contrat social est amené à être mis à jour avec d'autres éléments, d'autres apports et plus de populations, de citoyens seront consultés. Plus ce contrat social prendra de la valeur et plus il sera imposable aux futurs dirigeants. Donc, une fois que nous avons eu ce contrat social début du mois prochain, nous lançons maintenant la deuxième phase qui va être celle 1 de la conscientisation, de la mobilisation des citoyens pour qu'ils s'approprient ce contrat, pour qu'ils continuent également à participer à ces consultations qui vont se poursuivre et bien évidemment, nous allons également sensibiliser, conscientiser toutes les parties prenantes, à commencer par les potentiels futurs acteurs politiques ou acteurs actuels.
Merci. Alors, on va écouter les auditeurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Nous avons Emina Mwanda qui nous appelle de Bukavu. Emina, bonjour. Merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tout le monde. Les consultations entamées par cette structure sont à saluer. D'autant plus que dans un pays sérieux, de telles les initiatives devraient avoir l'accompagnement des dirigeants et gouvernants. Vu le thème choisi pour cette fin, nous prions la prise en compte de ces résolutions et nous voulons que le dirigeant puisse se focaliser dans ça afin de voir ce qui peut être sauvable et ce qui ne l'est pas, que le leadership tel que l'un des points retenus à ce sujet pose problème. Peut-être certaines de nous ne savent pas, certaines personnes d'entre nous ne savent pas qui est leader. C'est la personne influente, capable d'influencer un changement et d'assurer sa continuité. Mais c'est l'élément qui manque dans nos dirigeants. Et nous voulons que nos gouvernants et où soit le gouvernement prennent les résolutions et les données recueillies par cette structure afin de savoir ce dont la population a besoin.
Voilà, merci beaucoup Emina, vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé, c'est de tels genres d'initiatives devaient bénéficier de l'accompagnement des dirigeants. On pourra voir, est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme, est-ce qu'ils peuvent s'approprier, comment ils peuvent accompagner une telle initiative de récolte. Voilà. Aloïs Sakaji, vous êtes à Luisa dans le Kasaï central, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour également à tous les auditeurs de la Radio Okapi. L'initiative d'un projet de consultation populaire en vue de la constitution d'un contrat social entre les gouvernants et les citoyens est salutaire, car même chez Jean-Jacques Rousseau, parmi les philosophes qui ont posé les bases d'une bonne gestion politique, le contrat social était perçu comme impactant entre plusieurs subjectivités dans l'accomplissement véritablement réel et dur, fondé sur des principes communs pour une action commune. Étant entendu en tant que tel, le contrat social serait le socle de l'État qui se définit comme la conjoncture d'une loi, d'un peuple et du pouvoir, à tel point que la moindre rupture dans l'ordre de cette conjoncture constitue un mal politique s'expliquant par le pouvoir qui oublie sa raison d'être pour devenir une fin en soi et se maintenir au mépris de la loi et du peuple. Alors que la vraie raison d'être d'un État est de travailler pour la promotion et l'épanouissement de ses citoyens. Et par manque d'un contrat social solide, apparaît un autre mal politique qui se traduit sous forme de violence, d'aliénation de l'homme, d'imprévoyance qui limite l'action de l'État à l'immédiat, faisant ainsi fi à la dimension dynamique de la société. Ainsi, je pense qu'une telle initiative devrait effectivement s'étendre et que de fortes mesures d'accompagnement seraient mises en contribution pour sa réussite. Voudrais-je citer par une petite question à l'endroit des initiateurs de ces projets, celle de savoir, est-ce que c'est sur base de ces contrats sociaux, si le projet réussissait, que ceux qui désirent briguer un mandat à tel ou tel autre niveau devront tailler leur programme politique ou programme d'action, ou alors quel conseil donner au souverain primaire pour un choix utile au regard de cette démarche entamée?
Merci. Merci beaucoup, Aloïs. Directement, M. Floribert Anzoulouni. Je pense qu'on peut commencer par cette question directe. Hein. C'est très intéressant. Il a parlé de la rupture du contrat social, mais c'est assez intéressant quand même de pouvoir lui répondre. Et puis, notre ami de Bukavu qui parlait tout à l'heure de l'accompagnement des institutions dans une telle initiative.
Alors, je remercie beaucoup notre frère Ngandajika qui est...
De Luisa,
qui a très bien compris... finalement le fondement, les objectifs de ce contrat social. Donc oui, l'objectif ici est que tous les futurs potentiels candidats, ou en tout cas tous les futurs, les organisations de ces candidats intègrent ce contrat social, les éléments de ce contrat social dans leur programme de gouvernement. Absolument, parce que si vous n'intégrez pas les priorités des populations dans votre programme de gouvernement, quelle est la raison d'être de votre programme de gouvernement? Deuxièmement, deuxième question intéressante également, que conseiller à la population? Nous conseillons aux citoyens de s'approprier ce processus partout où ils en entendront parler. Nous sommes en train de faire le maximum pour toucher un maximum de personnes. J'ai parlé des 35 villes, j'ai parlé de tous les territoires, j'ai parlé d'une consultation virtuelle. Nous demandons à la population de s'approprier et une fois que ce contrat va sortir, surtout, de encore plus le porter pour l'imposer ensemble aux futurs dirigeants. Le frère de Bukavu également soulève un point important. Oui, l'accompagnement du gouvernement, en réalité, au-delà du gouvernement, cet exercice devrait interpeller, je pense, nos acteurs politiques de tous bords. Parce que, j'insiste, je reviens là-dessus, tout acteur politique qui veut concourir à un rôle public, qui veut donc représenter des citoyens, devrait au minimum, effectivement, connaître les problèmes de ses citoyens, connaître les attentes et en définir les priorités pour pouvoir en faire justement un programme, le programme qui aura pour objectif de résoudre les problèmes de ses citoyens qui ont été identifiés. Maintenant, le gouvernement, c'est une initiative complètement citoyenne. Donc, si le gouvernement pense qu'il est important pour lui d'accompagner un tel processus, cela ne nous pose aucun problème, l'initiative est totalement citoyenne.
On sait que à la veille des élections, il y a une forte campagne de manipulation aussi, hein, et que les votes souvent, on sait comment ils se déroulent, comment nous, population, nous portons les choix sur un ou un tel autre candidat. Mais je crois que le travail de fond de la vulgarisation du document final, ça sera très très intéressant pour que au lendemain, que ce soit les t-shirts, que ce soit une tasse du riz ou du café qui peut passer à gauche ou à droite, ne puisse pas influer sur la capacité de la population à porter les choix judiciaires en fonction de ce contrat social.
Absolument, parce qu'en fait, le travail de fond, une fois que le contrat est publié, consistera à intégrer cela dans toute une campagne également qui viendra par après d'éducation civique, d'éducation civique électorale. Donc, il y a toute une campagne qui va être menée également par le même réseau, par la suite, d'éducation civique électorale, dans laquelle nous intégrerons non seulement ce contrat social, mais toutes les questions que vous venez de poser, celle qui est justement d'aider nos citoyens à voter, comme on dit, utile, ou en tout cas à voter, à élire des personnes qui ont véritablement des programmes, qui ont des solutions aux problèmes auxquels les populations font face, et pas les personnes qui tentent d'acheter les consciences avec des t-shirts et autres dons.
Amos, vous êtes à Bukavu, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, on vous écoute, Amos.
Depuis ma bord, je tiens à saluer tous les auditeurs de la radio de la paix, mais aussi l'invité présent au studio. Au fait, par rapport au sujet ou à la thématique du jour, je pense que l'initiative Direction citoyenne pour la Congo est à saluer. Mais à mon avis, je ne pense pas que le Congo, notre pays, fait depuis des décennies la honte dans presque tous les domaines par manque d'un contrat social entre les dirigeants que nous avons toujours connus et les peuples congolais. Je tiens à rappeler ici que depuis 2006, le peuple congolais a voté par référendum et c'était à la majorité écrasante une constitution qui répond presque à toutes les attentes du peuple congolais. Parce que si vous essayez de lire notre constitution, vraiment beaucoup d'articles s'intéressent au bien-être ou reprennent le bien-être du peuple congolais. Des dirigeants qui ne parviennent pas à respecter ou à craindre la constitution, je ne vois pas en quoi demain ils vont dire non, comme il y a eu l'initiative de ces raisons, avec un contrat social, je peux le dire ainsi, c'est ce qu'ils vont respecter. À mon avis, je ne pense pas. Tant que la RDC, notre pays, n'aura pas des dirigeants qui répondent à quatre critères, à mon avis, quoi que nous fassions, parce que je répète, parce qu'à part même la Constitution, il y a beaucoup d'autres textes que nous avons, mais qui ne sont pas respectés par les mêmes dirigeants que nous avons toujours connus. Moi, j'ai dit, il nous faut des dirigeants qui répondent à quatre critères. Un, qu'il faut montrer du patriotisme et de la méritocratie. Trois, de la bonne moralité. Et enfin, qui craignent Dieu. On peut avoir de bons textes, on peut tout proposer et rien ne marchera. Voilà pourquoi, moi, je pense que le problème, c'est un problème de l'homme congolais. Ce n'est pas un problème de manque d'un contrat social ou de bons textes, parce que notre constitution a tout résolu. Mais malheureusement, on a un problème de manque de leadership responsable et visionnaire.
Alors, merci beaucoup Amos. Amos parle sur la question de ce contrat qui manque. Vous l'avez dit tout à l'heure, ces dirigeants, de toutes façons, ils sont quand même l'émanation de nous, électeurs, à un certain moment. Est-ce qu'on peut tomber dans les fatalismes du genre ça ne va pas changer, ou on peut croire que c'est possible qu'on peut y arriver? Fariel, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints. On vous écoute, Fariel. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les fidèles auditeurs de la radio. Et messieurs les journalistes, de ma part, j'ai beaucoup salué cette initiative qui consiste à consulter tous les citoyens, et surtout les citoyens engagés comme nous, et recueillir les avis des uns et des autres. Mais le problème que moi j'ai toujours dénoncé et condamné, c'est que nos gouvernants sont à l'écart des gouvernés. Cela est dû à quoi? C'est suite à un leadership qui n'est pas de qualité, un leadership qui n'est pas transformationnel, un leadership qui n'est pas relationnel. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a les problèmes. Il y a les problèmes entre les gouvernants et les gouvernés. Et si aujourd'hui cette campagne de consultation citoyenne est mise en œuvre, c'est suite à ces cacophonies gouvernementales que nous connaissons dans notre pays. Mais si les gouvernants cultivent cet esprit-là, des leaderships de qualité, transformationnels, relationnels avec les peuples, vous verrez que notre pays connaîtra bien évidemment son développement. C'est ainsi que les gouvernants qui sont les moteurs d'impulsion du développement de notre pays doivent être prêts de gouverner pour accueillir les attentes de la population et trouver solution à ces attentes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je pense que les travaux qui doivent être faits dans cette consultation citoyenne doivent vraiment beaucoup inspirer les dirigeants. Parce qu'il y a eu plusieurs émissions que nous avions animées à la radio Okapi, surtout dans Parole aux auditeurs. Je me demande si les gouvernants ont toujours pris cela en considération. Parce qu'il y a plusieurs matières, il y a plusieurs propositions que nous faisions toujours à la radio Capi. Je ne sais pas si nos gouvernants nous suivent, s'ils prennent cela en considération. Vraiment, je salue cette initiative. Nous serons là pour une consultation générale de tous les citoyens engagés. pour pouvoir organiser le fonctionnement institutionnel de notre pays.
Merci beaucoup, Fariel. Alors, il y a sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, notre ami Michel Bolingo qui est à Goma dit ceci. Nous saluons l'initiative et d'ailleurs, moi je propose à la population que tout acteur politique avec promesse durant la campagne électorale, on doit enregistrer cela. Et ses promesses. Alors, à la fin du mandat, s'il n'a pas réalisé ce qu'il avait promis, qu'il soit traduit en justice par la population. Voilà, ça, c'est une belle initiative. Alors, il y a bien fait Kachama qui nous écrit des Goma, et il lui encourage, parce qu'il dit cette action fait partie en réalité d'ailleurs de l'appropriation du processus même électoral, le processus démocratique par la population, et il souhaite vraiment que la population s'engage à cela. Emery Nzanzu sur la page Facebook, c'est une bonne initiative, nous pouvons prendre les cas de notre pays, mais pour nous, nous pensons, pour lui, qu'il n'y aura pas des changements. Pourquoi? Parce que le candidat font sourd oreille des problèmes véritables de la population. Maître Marie-Louise Efekele, elle dit ceci, les consultations populaires, une belle opportunité qui nous permet d'exprimer nos préoccupations, défis, attentes et priorités avant les échéances électorales. Cette fois-ci, le peuple va participer et non accompagner. Ah, je retiens ça, monsieur Floribert Anzuluni. Le peuple va participer et non accompagner. Ah, c'est une très très belle... une très belle pensée, ça.
Absolument. C'est encore une fois vraiment une très bonne compréhension de cette initiative. Si vous me permettez, reviens sur le point de notre compatriote Amos, dont je comprends les frustrations sur le leadership, sur la qualité du leadership. Ces frustrations, en fait, sont quand même à l'origine de cette initiative. Comme je l'ai dit au départ, c'est parce que nous constatons que les débats publics et politiques portés par ceux qui devraient trouver des solutions à nos problèmes ne semblent pas se focaliser sur les questions prioritaires. Donc oui, la question du leadership est essentielle, extrêmement importante, mais c'est nous, les citoyens, qui, à la fin de la journée, avons les capacités d'imposer le leadership que nous souhaitons, que nous voulons. C'est notre engagement, notre implication, notre prise en charge de la question qui va le faire. Donc premièrement, si beaucoup de citoyens, la grande majorité d'entre nous, un, participons à ce processus, deux, faisons en sorte de l'imposer aux futurs dirigeants, c'est un bon début. J'ai entendu un autre compatriote qui a soulevé un élément important en disant « il faut prendre tous les engagements et puis ensuite les sanctionner ». Mais c'est exactement ça. Lui également a compris. Parce que l'autre phase justement de ce contrat, c'est que tous ceux qui vont s'engager à ce contrat, une fois qu'ils sont au pouvoir, pour nous maintenant en tant que citoyens, il faudra mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation et de redevabilité.
Voilà.
Qui sont au-delà des institutions, mais qui vont être des mécanismes citoyens qui vont effectivement commencer à mettre la pression et peut-être à mettre de côté ou sur le banc des personnes, de mauvaises personnes, les personnes ou les députés ou les peu importe le niveau qui vont être élus mais qui ne respecteront pas les engagements de ce contrat social. Donc la question du leadership est extrêmement importante, mais je veux rassurer notre ami, je pense, de Amos, pour lui dire que non, ce travail n'est pas inutile. La constitution existe, mais en réalité, si la constitution, les lois et nos volontés ne sont pas respectées, c'est aussi parce que nous, même en tant que citoyens, nous ne nous approprions pas suffisamment ces questions et nous ne mettons pas en place des mécanismes suffisamment forts pour imposer ce respect aux dirigeants. C'est à nous de l'imposer pacifiquement et démocratiquement, bien évidemment, mais c'est à nous d'imposer aux dirigeants le respect de la Constitution, le respect des lois et puis aussi le respect de ce contrat social qui va contenir une partie non négligeable de nos priorités.
Alors, quand on parle consultation, vous l'avez dit à travers les antennes, les structures, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi une floraison des organisations de la société civile. Hein. Est-ce qu'on n'a pas peur que demain, qu'on ait aussi une autre démarche, ça veut dire une autre structure qui dit, voilà, moi aussi je lance, parce que on sait comment des fois ça fonctionne. Mais est-ce que vous êtes sûr de fédérer suffisamment d'organisations quand même dans le réseau pour qu'on puisse aussi des fois regarder de la même manière?
C'est un bon point. Alors, en ce qui nous concerne, à travers le réseau citoyen Impona Congo, nous avons tenté de fédérer un maximum, et je pense le plus grand nombre d'organisations, de personnes, de citoyens et de venant d'organisations, de mouvements citoyens, de la société civile, des laïcs catholiques, des laïcs protestants. Nous avons élargi au maximum le nombre de réseaux et de citoyens qui font partie de ce processus. Maintenant, encore une fois, nous ne disons pas que nous sommes les propriétaires de cette initiative. Nous espérons également que d'autres vont multiplier, peut-être améliorer, mais en, tous ensemble, améliorer ces consultations, nous emmener d'autres propositions. Mais l'idée ici, l'objectif ultime que nous devons retenir, c'est celui de faire en sorte que les citoyens s'approprie finalement la gestion du pays et l'avenir de notre pays.
Voilà. On va écouter Marie-Paul qui est à Kisangani. Merci de nous avoir rejoint, Marie-Paul. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Le moins qu'on puisse dire est que l'initiative du réseau citoyen Pona Congo est insoutenable et salitaire pour booster la gouvernance tous azimuts de la RDC, qui du reste est tombée en hibernation totale depuis la nuit des temps de la situation socio-économique de ces pays. Les points prévus dans ces consultations populaires constituent, à mon avis, une autopsie réelle de la maladie chronique de la RDC. Et cette maladie a fait que le Mexique traitant ne soit plus en mesure de la combattre efficacement pour l'éradiquer dans les corps du pays. Nous trouvons dans ces pays les règnes, bien évidemment, de toutes ces antivaleurs, de toutes ces contresens de la gouvernance du pays, et ce qui constitue, à mon avis, les fléaux de la gouvernance de ces pays. Alors, aujourd'hui, on parle ces réseaux a prévu de pouvoir consulter la population pour parler du point de la corruption, parler de l'absence de la gouvernance, parler de du pouvoir d'achat, ainsi de suite. C'est justement ce qui doit être fait dans ces pays, parce que dès que ces points sont résolus dans ces pays, nous allons voir que le développement sera donc boosté et que ces processus devraient être rapides, parce que ce sont ces points-là qui tuent le développement. Voilà pourquoi, d'entrée déjà, j'avais dit que les points prévus dans ces programmes de consultation populaire sont vraiment salutaires pour ces pays.
Merci beaucoup, Amos, on va revenir à notre invité tout à l'heure. Je rappelle encore qu'il y a le débat qui s'est poursuivi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, mais vous pouvez également rejoindre d'autres internautes et poster votre commentaire sur la page Facebook des paroles aux auditeurs.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et nous sommes ensemble dans ce studio avec Monsieur Floribert Anzoulouni, membre du réseau Pona Congo, et nous parlons de ce vaste projet des consultations populaires. Alors, avant d'écouter d'autres auditeurs, il y a notre ami Moïse Ousseni sur la page Facebook qui dit ceci: les consultations populaires est une approche la plus meilleure qu'on a jamais connue dans notre pays. Nous n'avons jamais été consultés pour donner notre avis sur la manière que le Congo est géré et donner nos propositions d'amélioration. Il y a vraiment des débats public dans lequel on ne se retrouve pas, dans lequel on ne sent pas que notre volonté est exprimée. Alors je reviens à vous monsieur Anzoulouni. Tout à l'heure j'étais en train de penser à la lettre des 13 parlementaires, aux consultations populaires du maréchal. J'ai posé la question en début sur comment arrive-t-on à avoir cette inadéquation entre ce que les gens pensent, et même quand eux-mêmes les politiques, ils vont en vacances parlementaires, ils ramènent des rapports de vacances parlementaires sur des problèmes qu'ils ont rencontrés. Mais qu'est-ce qui se passe après? Où se trouve exactement le problème?
Bon, je pense que le problème se trouve à plusieurs niveaux. Nous avons d'abord, je pense qu'il faut le dire, des processus électoraux qui sont globalement jusque-là assez problématiques. Donc ça c'est une première chose. Je pense qu'au niveau des citoyens nous-mêmes, il y a également une lourde responsabilité, une très lourde responsabilité. Si nous-mêmes les citoyens, nous ne comprenons pas suffisamment le rôle des acteurs politiques à différents niveaux. Je vous donne l'exemple du député. Et d'où je vous disais tout à l'heure que notre campagne va se poursuivre avec l'éducation civique électorale. Un député n'a pas pour rôle de réparer des ponts, de construire des choses ou de produire des choses. Un député a pour rôle d'aller à l'Assemblée nationale, de produire, de s'assurer que des lois appropriées justement pour résoudre les problèmes des citoyens soient votées. Et il a pour rôle également de suivre l'action de ceux qui dirigent au quotidien, de l'exécutif, pour s'assurer que ceux-là exécutent bien des politiques et des décisions qui résolvent les problèmes des citoyens. Donc si nous-mêmes, nous ne comprenons pas cela, quand un candidat député vient dans notre circonscription et qu'il nous fait, il nous promet de construire des ponts, il nous fait des dons, il nous offre des t-shirts et que nous les lisons pour ça, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous endetter auprès de ce député. Parce que ce dernier a lui-même dû probablement s'endetter, ou en tout cas prendre des engagements pour mobiliser les ressources nécessaires pour cette campagne. Et par la suite, lorsqu'il est élu, mais sa première priorité, c'est de récupérer ses ressources.
En parole aux auditeurs, il y a un auditeur qui a dit une fois, nos candidats, nos politiciens se comportent plus envers nous comme des mercenaires.
Absolument, mais c'est, en majorité, c'est ce qui se passe. Une fois qu'il a, mais moi, je vends mon terrain 50 000 $, je vous offre des t-shirts, de la nourriture et je vous promets des choses. Mais une fois que je suis élu, la première des choses que je dois faire, c'est récupérer mon argent. Et donc, pour moi, l'investissement que j'ai fait, c'est pendant la campagne en réalité. Donc, pour moi, je vous ai déjà donné votre part entre guillemets du butin que je suis allé récupérer. Et lorsque je vais j'occupe la fonction, ben je dois récupérer mon butin avec les intérêts sur ce butin. Donc, je crois que la première responsabilité quand même est à notre niveau. C'est nous qui devons bien comprendre le fonctionnement de l'État. Vous l'avez dit tout à l'heure, les acteurs politiques viennent de la société, viennent d'une partie d'entre nous. La vraie question, c'est est-ce que nous, au-delà de la qualité ou pas du processus, est-ce que nous choisissons les bonnes personnes, des personnes capables de répondre à nos préoccupations et de résoudre nos problèmes? Notre action aujourd'hui est d'aider les Congolais à choisir et à désigner des personnes qui seront véritablement capables de résoudre leurs problèmes. Donc des personnes, j'ai entendu tout à l'heure des critères extrêmement intéressants, patriotisme. Mais bien sûr, nous devons désigner des personnes qui ont un esprit patriotique. Nous devons désigner des personnes qui aiment le Congo, qui aiment les Congolais. J'ai entendu bonne moralité. Absolument, nous devons désigner des personnes qui ont une bonne moralité, parce que la bonne moralité influe sur la gouvernance du pays. La gouvernance implique que nous aurons des personnes qui ne vont pas avoir comme priorité de dilapider les ressources de l'État, de voler l'argent de l'État, pour parler plus simplement, mais qui vont avoir pour priorité de résoudre les problèmes des Congolais, la mission pour laquelle ils ont été envoyés dans les institutions.
Et avec toutes ces années de débats dans Parole aux auditeurs, je me suis rendu compte que quand on parle chaque fois des bonnes personnes avec moralité, la population a tendance à recourir aux personnes qui viennent de la société civile. On les a vus partir de la société civile en politique, mais bon, malheureusement, ça s'arrête là.
Non, oui, venir de la société civile ne donne pas de garantie, parce qu'en fait, tout acteur politique, avant de devenir un acteur politique, vient de la société civile. Mais je pense qu'encore une fois, l'engagement d'une personne peut s'évaluer par son parcours, par ce qu'il a concrètement déjà fait pendant son parcours, qui peut nous permettre d'évaluer cet engagement. Mais les valeurs, les valeurs telles que la méritocratie, la bonne moralité, sont des valeurs indispensables.
Avant d'écouter notre ami François qui est à Tshikapa, il y a Peter qui est ici à Kinshasa sur la page Facebook qui salue l'initiative des consultations populaires lancée par les réseaux citoyens pour la Congo. Cependant, il y a des problèmes internes et externes qui gangrènent notre pays. Ces problèmes sont identifiés et connus. Même ceux qui sont censés les résoudre, ils connaissent déjà, mais faute de leadership, ils n'arrivent pas à prendre des mesures nécessaires pour pouvoir le faire. Alors, on va écouter François qui est à Tshikapa, dans le Kasaï. Bonjour François et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Il y a à son actif le projet de consultation populaire concernant les questions de l'air, les questions électoralistes et les questions du développement. Oui, l'année est hautement politique, l'année est essentiellement électorale. Les électeurs doivent justement savoir distinguer l'avenir dans 5 ans et les aventures aussi dans 5 ans. Alors là, je voulais dire ceci, que pour une seule journée, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, ou pour une voix d'une électrice ou d'un électeur, nous pouvons plonger le pays dans le chaos, nous pouvons plonger le pays dans l'impasse, ça non. Tout comme aussi nous pouvons faire entrer le pays dans l'histoire du développement. En 2006, en 2011, en 2018, les gens ont voté par moments d'une manière subjective pour des relations sociologiques. Mais avec l'évolution du monde, nous devons comprendre que nous devons faire des choix qui peuvent faire à ce que demain, nos enfants, nos frères, nos progénitures puissent vivre aisément, c'est-à-dire voter utile. Voter l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, voter pour la province, voter pour le pays, voter pour la ville, voter pour la commune, pour les secteurs, ainsi de suite.
Merci François. D'ailleurs, François dit quelque chose d'intéressant, que une seule voix peut plonger le pays dans le chaos, tout comme une seule voix peut amener le pays dans l'histoire. Et d'ailleurs, on l'a toujours dit aux électeurs, une voix donne à quelqu'un un billet d'avion, il lui donne le privilège d'installer sa famille aux États-Unis. Des fois, on voit que c'est juste un geste anodin. On va, on écrit le nom de quelqu'un et puis on danse dehors, mais on ne sait pas qu'on vient de donner à quelqu'un la palissade, on vient de lui donner à cause de notre voix $5,000, on lui a donné les billets d'avion, les priorités sur la chaussée. Ah, si on savait ce qu'une voix représente. Alors, et ça, c'est le message de François, M. Floribert Anzoulouni, c'est une grande interpellation. Vous l'avez dit, c'est dans le processus de ce projet de pouvoir vraiment, vraiment, vraiment sensibiliser. Mais on sait qu'au même temps qu'on veut sensibiliser, il y a tellement beaucoup de bruit. Aussi, pendant la même période, avec tout ce qu'il y a comme bruit de politique, est-ce que ça peut pas rendre notre voix inaudible?
Non, je dirais inaudible. Pour que notre voix soit rendue inaudible, il faut que la majorité d'entre nous, un, ne s'approprie pas ce processus et privilégie le bruit.
et donc,
notre combat aujourd'hui, justement, est de faire en sorte que la majorité d'entre nous s'approprie ce processus et s'éloigne le plus possible du bruit. Le bruit fait partie, finalement, d'une période de pré-campagne, de campagne électorale.
Exact.
Mais ça doit prendre une place minime.
Mm-hmm. Voilà. Alors, nous allons écouter Siméon qui est à Goma. Siméon, merci de nous avoir rejoints. On vous écoute. Bonjour, Siméon.
Bonjour mes chers journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Nous saluons les consultations que va faire le réseau citoyen pour le Congo. Et ils ont dit Congo Tolingi pour les consultations populaires. Quand ils disent Congo Tolingi, ça s'explique, ça exprime beaucoup de choses là-dedans. Comme nous sommes dans des contextes électoraux, bientôt là il y aura des élections et nous aurons des candidats bien sûr. Les candidats qui nous promettent le ciel et le soleil, les choses auxquelles eux-mêmes savent comme quoi ils ne sont pas capables de nous restituer ce qu'ils nous ont promis. Comme la promesse est une dette, nous pensons que bientôt là nous allons chaque fois trahir ou traduire ces autorités là, ces gens qui font la campagne avec beaucoup de promesses à justice, car la promesse est une dette. Tu ne peux pas promettre aux gens et les réaliser, c'est tout un défi, tout un problème. C'est ça, c'est que nous on ne parvient pas à comprendre leurs problèmes, on ne parvient pas à les comprendre très bien. Congo Tolingi, nous voulons beaucoup de choses. Là, c'est un concept qui dit beaucoup d'autres choses. Et nous voulons, comme nous sommes dans un pays là, je ne sais pas les qualifier, et même, après les consultations, il n'y aura pas d'impact. Ça, c'est sûr, il n'y aura pas d'impact parce que eux sont là pour vivre que les gens, nous élisons les députés, nous élisons les présidents de la République, mais ça impacte au pays, ça impacte à nous, la population. C'est pourquoi nous avons beaucoup de défis. Nous saluons néanmoins les processus que font les réseaux citoyens pour le Congo. Nous disons merci. Merci, mais nous voulons assez que les choses se concrétisent sur le terrain. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Alors, comme le dit notre invité depuis le début, hein, c'est une question de responsabilité de nous-mêmes, la population. Mais quand je vois exactement le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, hein, la majorité, presque la totalité, on peut dire ainsi, de nos compatriotes qui ont lu les sujets et qui interviennent, ils estiment que c'est très important. Même si quelque part, Monsieur Floribert Anzuluni, on sent qu'il y a ce fatalisme qui est dû aussi au fait que les gens se sentent trahis chaque fois et ils ont tendance à se décourager.
Absolument, et nous comprenons cela. Nous-mêmes, je vous assure, sommes frustrés et avons un petit peu été victimes de ce fatalisme. Mais ce qui nous emmène justement à lancer cette initiative tous ensemble avec d'autres, c'est pour combattre ce fatalisme. Mmh. Nous devons, c'est ce fatalisme qui nous maintient et qui nous maintiendra dans une situation qui ne nous convient pas. Mmh. Nous voulons justement pousser, aider nos compatriotes à sortir de ce fatalisme. Et la sortie de ce fatalisme ne peut passer que par l'appropriation de tous ces processus citoyens. C'est-à-dire que si les citoyens, comme disent nos frères burkinabés, notre nombre est notre force. C'est nous qui élisons, c'est nous qui décidons, qui devons décider de qui va occuper telle ou telle autre fonction. C'est nous qui cédons une partie de notre pouvoir à d'autres citoyens. Alors c'est à nous de définir, un, dans quelles conditions nous les cédons, deux, les critères de ces citoyens, trois, sur base de quoi nous allons céder finalement ce pouvoir-là. Ce fatalisme-là est compréhensible, mais c'est cela que nous devons combattre. Je demande vraiment à tous nos frères, tous nos compatriotes de s'approprier ce processus. C'est le seul moyen pour nous de récupérer en quelque sorte, en tout cas de nous assurer que ce pouvoir que nous cédons soit utilisé suffisamment pour les intérêts de la majorité d'entre nous et non pas malheureusement les intérêts de certains petits groupes comme nous le voyons trop régulièrement.
Parce qu'on va bientôt chuter. Les procédures, vous avez donné le processus, comment il va se dérouler de point A à point B à point 2. Avant peut-être d'arriver au canal par lequel ceux qui voudraient avoir plus d'informations peuvent entrer en contact avec vous, est-ce qu'on peut récapituler un tout petit peu le processus? Lancement, telle province, on va passer par ici, et comme ça les gens ont une idée, ils peuvent déjà s'attendre pour savoir que non, voilà, ça va venir, et peut-être auprès de qui aujourd'hui peuvent-ils s'adresser s'ils ont besoin de plus d'informations dans leur ville ou dans leur territoire.
C'est une très bonne question. Alors, premièrement, donc le processus va se dérouler d'abord de manière physique. Nous avons donc des points focaux dans les 35 villes. Ça, c'est la première phase. Ces points focaux vont organiser des activités, on va dire, citoyennes de terrain dans ces 35 villes. Et chacune de ces villes aura une communication, une sensibilisation, une conscientisation qui a déjà commencé dans la plupart de ces villes. Mmh. Deuxièmement, nous avons également des points focaux dans les territoires. L'idée est de faire en sorte que dans ces territoires également, il y ait des activités qui soient menées. Ces points focaux sont également dans une campagne actuellement de sensibilisation et de conscientisation. Deuxième phase, ce sera les consultations virtuelles. Avant d'arriver aux consultations virtuelles, nous allons également organiser des rencontres thématiques. Donc aujourd'hui, probablement, nous allons rendre public, le réseau va rendre public un planning d'activités thématiques avec des groupes thématiques bien spécifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mamans maraîchères, les étudiants et autres catégories à travers la ville de Kinshasa et d'autres points. Deuxièmement, c'est la consultation virtuelle. Nous étions ici dans une phase de sensibilisation qui est en train de prendre fin. Nous allons donc rendre public également l'outil, le lien à partir duquel cette sensibilisation, consultation virtuelle va être effectuée. Celle-là va être très importante. Ce sera simplement un lien sur le site internet de Pona Congo qui va permettre à tout citoyen de participer également à ces consultations et nous tiendrons compte en fait à la fin du processus de tous ces avis pour produire le contrat social. Donc aujourd'hui Pona Congo a un site internet. Pona Congo peut également être joignable sur toutes nos pages, toutes les pages Pona Congo Congo Tolingi qui sont sur Facebook, qui sont sur Twitter et qui sont sur tous les réseaux sociaux. Et de cette manière-là, et Pona Congo est en train de faire cette sensibilisation dans les médias.
Alors Congo Tolingi, comment vous l'entrevoyez? Il est quel type de Congo, celui que nous aimons là?
Oh, le Congo Tolingi, en résumé, ça doit être le Congo qui résout, en une phrase, qui résout les problèmes de nos citoyens et surtout qui permet d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Aujourd'hui, j'ai entendu un de nos compatriotes dire que les problèmes sont connus. Je veux dire que effectivement, les gros problèmes sont connus. Mm-hmm. Le Congo Tolingi, c'est le Congo qui va permettre de résoudre la situation sécuritaire à l'Est. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes encore une fois, il faut le dire et le répéter, victimes d'une agression d'un de nos pays voisins, en l'occurrence le Rwanda. Une situation, une instabilité, une insécurité qui a créé des millions de morts depuis plus de 20 ans. Le Congo Tolingi doit mettre terme à cette guerre-là. Mm-hmm. Le Congo Tolingi doit permettre à tous les citoyens congolais de pouvoir bénéficier des soins de santé minimum. Le Congo Tolingi doit permettre à tous les citoyens congolais de pouvoir, tous les parents, moi je suis un parent, de pouvoir envoyer ses enfants à l'école dans des bonnes conditions. Le Congo Tolingi doit permettre de ne plus avoir d'enfants de la rue comme nous les avons ici, qui sont les conséquences d'une situation en réalité sociale. Mm-hmm. Le Congo Tolingi, c'est celui-là. Mais chacun d'entre nous, finalement, effectivement, a son Congo Tolingi, doit pouvoir le partager. Mais le Congo Tolingi, en résumé, doit pouvoir améliorer les conditions de vie des citoyens et faire en sorte que les citoyens congolais vivent dans des conditions beaucoup plus acceptables que celles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui.
Et parce qu'on va terminer, est-ce que vous estimez qu'il y a quelque chose que vous aurez aimé dire, que je ne vous ai pas laissé vraiment l'occasion de les dire, et pourtant de les dire dans une minute?
Non, mais ce que je vais dire, je vais rappeler simplement, dire à mes compatriotes que finalement l'avenir de notre pays dépend de l'engagement de chacun d'entre nous. Nous l'oublions trop souvent, nous pensons que l'avenir, la situation ne dépend pas de nous, dépend. Non, si aujourd'hui un petit groupe de personnes peut se permettre de poser des actes qui vont à l'encontre de la majorité, c'est parce que nous qui représentons la majorité, nous le permettons. Mmh. Si chacun d'entre nous s'engage et prend cet engagement à son niveau de manière démocratique et pacifique, je peux vous assurer que ce petit groupe de personnes ne pourra pas. Mmh.
Merci beaucoup, Monsieur Floribert Anzuluni, membre du réseau Epona Congo et ancien coordonnateur des Filimbi, cofondateur d'ailleurs. Merci à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de ce magazine. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Mais vous pouvez aussi la réécouter et la télécharger sur le site internet de Radio Kapi, www.radiokapi.net. Quant à moi, Piero Elamegi, je vous retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Merci de votre fidélité.